Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 30 janvier 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, l'ancien chef de la rébellion et candidat à la présidentielle d'octobre, s'oppose à toute modification de la Constitution.
En Guinée, le président Alpha Condé s'insurge contre toute ingérence étrangère dans les affaires de son pays, tandis qu'un autre manifestant perd la vie dans les manifestations contre lui.
Au Mali, les djihadistes ont repris le contrôle du village de Sokolo, où ils avaient tué dimanche 20 militaires maliens.
En République démocratique du Congo, au moins 36 civils ont été tués à la machette dans la nuit de mardi à mercredi près de Beni, dans l'est du pays.
Coronavirus en Chine, le bilan s'élève maintenant à 170 morts, alors que l'OMS se réunit d'urgence aujourd'hui.
Procès en destitution du président Donald Trump. Offensive généralisée de M. Trump et de ses avocats contre John Bolton, l'ancien conseiller en matière de sécurité nationale.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'ancien chef de la rébellion ivoirienne et candidat à la présidentielle d'octobre, Guillaume Soro, actuellement en exil, a annoncé hier qu'il s'opposerait à toute modification de la constitution de son pays, en jugeant inacceptable de changer les règles du jeu à quelques mois du scrutin. Bagassi Koura.
C'est tout de même inacceptable qu'on veuille changer les règles du jeu. Nous sommes outrés qu'en Afrique, à 6 mois d'élection, à chaque fois on essaie de traficoter nos constitutions pour flouer les citoyens, a dénoncé avec véhémence Guillaume Soro depuis Paris. J'ai déclaré ma candidature en octobre 2019. Comment admettre qu'en cours de jeu, on change les règles, a-t-il ajouté. Le président Alassane Ouattara, 78 ans, laisse planer le mystère sur une éventuelle candidature à un troisième mandat non autorisé par la Constitution. Début janvier, il a annoncé qu'il proposerait au Parlement des modifications de la Constitution, assurant qu'il ne s'agirait pas d'éliminer qui que ce soit de la course à la présidentielle. Alassane Ouattara estime avoir le droit de se représenter en raison des changements de constitution en 2016. Guillaume Soro, âgé de 47 ans, toujours député, a tenté le 23 décembre de revenir dans son pays après 6 mois d'absence. Il est reparti en Europe car il fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans son pays. Plusieurs de ses proches, dont des députés, ont été arrêtés et sont toujours en détention.
Le président guinéen Alpha Condé refuse toute ingérence étrangère dans les affaires de son pays, précisant que personne ne dicte à la Guinée ce qu'elle doit faire. Le pays est confronté depuis des mois à une vague de manifestations de l'opposition qui réclame une plus grande implication de la communauté internationale. Eric Manirakidza.
En 1958, nous avons osé dire non pour prendre notre indépendance. Malgré tous les risques, nous sommes toujours debout, a dit hier Alpha Condé devant un parterre de diplomates. La Guinée avait voté non au référendum instituant une communauté franco-africaine proposé cette année-là par le général de Gaulle, accédant peu après à l'indépendance. L'opposition guinéenne organise depuis la mi-octobre des manifestations, parfois durement réprimées, pour faire barrage au projet qu'elle prête au chef de l'État d'obliger un troisième mandat à la fin de l'année. À la mi-janvier, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait déclaré la France particulièrement préoccupée. Nous sommes prêts à collaborer avec nos partenaires, à les écouter, mais dans le respect réciproque. C'est le peuple de Guinée qui décide de son avenir. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde, a déclaré M. Condé. Il a aussi souligné que son pays n'était pas le seul à traverser des crises. Nous voyons des manifestations, nous voyons des crises partout, a-t-il dit. Au moins 27 personnes ont été tuées depuis la mi-octobre dans les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont également coûté la vie à un gendarme.
Ajoutons qu'un jeune homme de 19 ans a été tué mercredi à Conakry dans des heurts avec les forces de l'ordre, a indiqué un de ses proches. La mort de Mamadou Saïdouba, étudiant en sciences économiques de l'université de Sonfonia, porte à 28 au moins le nombre de manifestants tués depuis la mi-octobre. Un autre jeune homme a été également blessé mercredi par balle au niveau de la poitrine et était en soins intensifs, a indiqué dans la soirée à l'AFP un de ses frères.
Au Mali, des djihadistes ont repris mercredi le contrôle du village de Sokolo qu'ils avaient attaqué dimanche près de la frontière mauritanienne, faisant 20 morts et 5 blessés parmi les militaires maliens. L'armée malienne, qui dans un premier temps a repris le contrôle du village, s'est repliée sur la localité voisine de Diabali et les djihadistes sont revenus à Sokolo, a déclaré à l'AFP un enseignant de cette localité qui a requis l'anonymat.
En République démocratique du Congo, selon un bilan mercredi de sources locales, au moins 36 civils ont été tués à la machette dans la nuit de mardi à mercredi près de Beni. Nouveau massacre après quelques semaines d'accalmie. Paysans achevés à l'arme blanche le soir en brousse de retour des champs ou au village à la nuit tombée. Le mode opératoire porte la signature du redoutable groupe armé des ADF d'après les autorités et les survivants. La tuerie a commencé mardi soir à Manzingi, au nord-ouest de la cité d'Oicha.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le directeur des programmes d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan, a appelé hier le monde entier à agir face au nouveau coronavirus. Le bilan total s'élève désormais à 170 morts en Chine. Concernant les infections, 1032 nouveaux cas ont été répertoriés dans le Hubei, où se trouve Wuhan, et un au Tibet, ce qui porte le bilan à environ 7700 cas de contamination en Chine continentale, hors Hong Kong. Les derniers développements avec Jacques Aristide.
À Genève hier, Michael Ryan était catégorique. La planète entière doit être en alerte. Quant à son patron Tedros Adhanom Ghebreyesus, de retour de Pékin, il a convoqué une nouvelle réunion de l'OMS aujourd'hui afin de déterminer si l'épidémie constitue ou non une urgence internationale. La semaine dernière, l'agence onusienne avait estimé qu'il était trop tôt pour décréter l'alerte mondiale. Hier, deux compagnies aériennes, British Airways et l'indonésienne Lion Air, ont suspendu leur vol vers la Chine continentale, tandis que plusieurs centaines de ressortissants japonais et américains ont été évacués de Wuhan, où est apparue la maladie. Environ 200 Américains ramenés en Californie sont de nouveau examinés pour détecter d'éventuels symptômes. La Chine demande à ses ressortissants récemment arrivés ou revenus en Mauritanie de rester confinés pendant 14 jours au moins pour empêcher la propagation éventuelle du coronavirus. Rien n'indique que cette démarche soit motivée par une situation particulière à la Mauritanie. Aucune infection vérifiée n'a été signalée à ce jour dans le pays, ni confirmée ailleurs en Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump, ses avocats et la Maison-Blanche ont lancé mercredi une offensive généralisée pour empêcher son ancien collaborateur John Bolton de témoigner à son procès en destitution ou de publier un livre contenant des confidences embarrassantes. Monsieur Trump s'est déchaîné contre son ex-conseiller à la sécurité nationale, l'accusant d'avoir multiplié les erreurs de jugement. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le président républicain s'étonne que son ancien conseiller, à peine parti de la Maison-Blanche, ait, je cite, « écrit immédiatement un livre méchant et faux, faisant fi des règles de confidentialité ». La Maison-Blanche s'est opposée mercredi à sa publication, mais d'après le New York Times, le président américain aurait bien confié en août à John Bolton qu'il comptait conditionner le maintien de l'aide américaine à l'Ukraine à l'ouverture d'une enquête à Kiev visant des responsables démocrates, dont l'ancien vice-président Joe Biden. Cette accusation est au cœur même de la procédure d'impeachment lancée par les parlementaires démocrates qui accusent le président américain d'abus de pouvoir et d'entrave à l'enquête du Congrès. À la reprise du procès hier dans l'après-midi, l'élu démocrate Adam Schiff, qui fait office de procureur en chef, s'est immédiatement emparé du sujet. Il y a un témoin qui, s'il est assigné à comparaître, est prêt à répondre à vos questions, a-t-il lancé au 100 sénateurs chargés de juger le président. Pour les démocrates, il s'agit d'un développement majeur qui requiert que John Bolton témoigne au procès en destitution. La question sera soumise à un vote vendredi ou samedi. Pour citer John Bolton comme témoin lors du procès, les démocrates doivent obtenir l'appui d'au moins 4 sénateurs républicains.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Maroc s'apprête à lancer un grand plan d'aide à la création de petites entreprises. Le pays veut encourager les projets portés par les jeunes avec des crédits à bas taux, notamment dans les zones rurales. Ce plan porté par l'État et les banques prévoit de plafonner à 1,75% le taux d'intérêt des crédits pour les bénéficiaires en zone rurale et à 2% en zone urbaine, soit le taux le plus bas jamais appliqué au Maroc selon le ministère de l'Économie et son partenaire Bank Al-Maghrib. Le programme table sur la création annuelle de 27 000 emplois. Il ambitionne aussi d'accompagner les investisseurs à créer chaque année 13 500 nouvelles entreprises. Après de longs mois de négociations avec le gouvernement, les fonctionnaires zimbabwéens ont accepté une première hausse de leur salaire, ce qui éloigne la perspective d'une grève contre la vie chère. L'inflation galopante qui sévit depuis plusieurs mois dans le pays a considérablement érodé le pouvoir d'achat des agents de la fonction publique. L'accord provisoire passé avec l'État prévoit un ajustement du traitement fondé sur le coût de la vie à compter du 1er janvier 2020. Du côté des États-Unis, la Banque centrale américaine a laissé ses taux inchangés ce mercredi à l'issue de sa première réunion monétaire de l'année, malgré la pression de Donald Trump en faveur d'une nouvelle baisse. Le taux directeur reste donc inscrit dans une fourchette comprise entre 1,5 et 1,75%. L'inflation annuelle aux États-Unis était de 1,5% en novembre, selon l'indice PCE, le plus suivi par la banque pour mesurer l'évolution des prix.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Brigitte Kosgei et Timothy Kerioyot, désignés athlètes de l'année.
Oui, la Kenyane Brigitte Kosgei, recordwoman du marathon en 2h14 minutes 4 secondes, et son compatriote Timothy Kerioyot, dominateur sur le 1500 mètres en 2019, ont été honorés par la Confédération africaine d'athlétisme, une première dans l'histoire de l'instance continentale. Les espoirs féminins et masculins sont respectivement les Éthiopiens Goudaf Dzegei et Lamesha Girma. Le meilleur entraîneur africain est Hussein Chibo, entraîneur en chef du demi-fond et fond de l'équipe éthiopienne. Le Marocain Mohamed Wahab, directeur de réunion des Jeux africains de Rabat, a été désigné meilleur officiel.
Le Brésilien Lucio raccroche à 41 ans.
Le défenseur brésilien, champion du monde en 2002 avec la Seleção, a annoncé qu'il prend sa retraite à 41 ans après avoir disputé deux saisons en 4e division avec la Brasilienne C. Né en 1978, Lucimar da Silva Ferreira, plus connu sous le nom de Lucio, a débuté sa carrière dans le club de sa ville natale, Planaltina, avant de taper dans l'œil de l'international Porto Alegre, qu'il a recruté en 1997. Il est ensuite allé au Bayer Leverkusen en 2001, puis le Bayern Munich. Mais c'est en Italie que le Brésilien a connu sa saison la plus faste en club, avec le fabuleux triplé avec l'Inter Milan, remportant la Serie A, la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions. Avec son équipe nationale, Lucio était titulaire lors du 5e et dernier titre mondial de la Seleção au Japon et en Corée.
L'enquête sur le crash d'hélicoptère qui a tué 9 personnes, dont le basketteur Kobe Bryant, se poursuit.
Parmi les corps identifié hier, celui de Kobe Bryant, sorti des débris de l'hélicoptère qui s'est écrasé dimanche sur une colline près de Los Angeles. Alex Villanueva, shérif du comté de Los Angeles.
Nous avons notifié au bureau du comté de Los Angeles l'identité de 4 victimes qui ont péri dans cet accident. Il s'agit de John Altobelli,
Sarah Chester,
Ara Zobayan, le pilote, et Kobe Bryant.
Les débris de l'appareil se sont éparpillés sur près de 200 mètres à la suite d'un choc à grande vitesse. Selon les enquêteurs de l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports, les enquêteurs travaillent à l'identification des autres défunts, dont Diana, la fille de Kobe Bryant. Autorité expert semble privilégier pour l'heure une manœuvre accidentelle liée au brouillard plutôt que d'éventuels problèmes mécaniques. L'appareil n'avait pas de boîte noire car celle-ci n'était pas nécessaire sur ce type d'hélicoptère. Il n'était pas non plus muni d'une alarme d'altitude comme l'avait recommandé à plusieurs reprises l'Agence de l'aviation civile américaine. On reste ici aux États-Unis pour parler de basketball avec vous Idrissa. Les résultats de la nuit dernière en NBA.
Indiana et Chicago 115-106, Brooklyn et Détroit 125-115, Memphis et New York 127-106, San Antonio et Utah 127-120, Portland et Houston 125-112, Oklahoma City et Sacramento 120-100.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, retour sur la liberté provisoire accordée au général Amadou Aya Sanogo et à des co-accusés dans l'affaire des 21 bérets rouges assassinés en 2012. À Kati, la ville garnison où étaient basés ces hommes, notre correspondant Lamissa Sangaré a recueilli les réactions suivantes.
Pour moi, la libération de Aya Sanogo est contradictoire pour certains. Maintenant, c'est une bonne chose pour d'autres. Maintenant, les mécontents sont maintenant ceux qui ont perdu leurs parents. Du côté politique, je pense que Aya a contribué à un changement au Mali ici. Je peux dire en conclusion que la libération de Aya a été bénéfique pour moi.
Je pense que c'est quelque chose de salutaire. Ça montre que le Mali est en train d'avancer dans le cadre de la paix. On doit se pardonner. On en a besoin.
Ça ne m'a pas surpris parce que la loi impose que quand on inculpe quelqu'un ou bien quand on prend quelqu'un pour le juger, il y a un délai normal qui doit être observé avant son jugement. Je ne suis pas juriste, mais je crois que Aya a dépassé ce délai. Il a fait pratiquement 6 ans, sinon 7, sans être jugé. Donc si l'État ne peut pas le juger, s'il le libère, à cette indifférence de l'État, il veut le faire la lecture de cette manière-là. Et chacun a ses droits. Aya aussi a son droit d'être jugé dans un délai. Si ce délai est expiré, ce n'est ni la faute à Aya, ni la faute à ceux qui ont perdu leur leur. C'est une défaillance de l'État. Les hommes viennent, ils font leur temps dans l'État. Ils s'en vont. L'État demeure. L'État a failli, c'est une faute. Et c'est très dangereux. Parce qu'il ne faut pas voir la chose aujourd'hui, mais il faut voir ça demain. Ceux qui ont fait la faute, ils ont fait la faute au nom de l'État. Et ils vont partir demain. Ceux qui vont venir après eux, ils vont assumer. Parce que l'État, c'est une continuité. Ça peut apaiser le climat social. Mais de l'autre côté, ceux dont les parents ont été victimes, ça n'apaise pas leur colère. Hein, parce qu'il ne peut pas avoir de conciliation sans justice. Ne serait-ce qu'une forme quelconque de justice, si on le faisait et puis on le libérait, tout ça, on pourrait le comprendre. Mais faire un semblant de justice, puis le libérer comme ça, les victimes ont des progénitures. Peut-être ils vont grandir avec ça. Un jour, ils seront responsables. Dieu seul sait comment ils vont gérer le pays. Dans quel esprit de conscience ils vont gérer l'État. Ça, il faut avoir peur.
Pour moi, je pense que après 7 ans d'emprisonnement sans jugement, il était temps que la loi vraiment soit appliquée, quelle que soit la gravité de l'acte. On ne doit pas reprocher quoi que ce soit au magistrat ou bien au procureur qui a pris la décision de le mettre en liberté provisoire. Si on n'arrive pas à le juger, prouver qu'il est coupable ou il n'est pas coupable, qu'on le mette en liberté provisoire. Mais le problème maintenant au Mali, quand tu es en liberté provisoire, tu n'es plus jugé. Est-ce qu'il sera définitivement déchargé de ce qu'il a fait? Qu'il soit libéré ou qu'il ne soit pas libéré, cela n'a rien à voir avec le climat politique. Mais qu'est-ce qu'Aya a fait avant d'aller en prison politiquement? Il n'a rien fait. Il a été arrêté parce qu'il est présumé coupable de crime. Si tel n'est pas la réalité, qu'on le mette en liberté ou bien qu'on nous amène la preuve comme quoi il est coupable, ça n'a rien à voir avec le climat social. Rien à voir.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Niger, la grève d'un mois des enseignants des universités publiques en est à sa 2e semaine. À l'appel de leur syndicat, ils entendent protester ainsi contre l'adoption l'année dernière d'une loi instaurant la nomination par décret des recteurs des universités qui étaient avant cette loi élus par les enseignants et les étudiants. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Les étudiants et leurs parents, principales victimes de ce mouvement de grève, se disent préoccupés par la situation.
C'est pour nous retarder de plus parce que l'année passée, ce genre de choses a été fait. Donc, ça nous a beaucoup retardé.
Quand les éléphants se battent, c'est l'homme qui en pâtisse. Et les grands perdants, c'est l'étudiant. Or, nous sommes dans un pays qui a extrêmement besoin des cadres. Et ces cadres-là, le milieu par excellence pour les former, c'est l'université. Et si nous évoluons dans cette dynamique, je crois qu'avec le temps, il serait difficile pour notre pays d'avoir des cadres compétents.
Le gouvernement ne peut pas honorer ses engagements. Ce n'est pas la peine de prendre des engagements qu'on ne peut pas honorer. Vous, les professeurs, les enseignants aussi, il ne faut pas qu'à cause de vous, que nous, nos élèves, soient punis, pénalisés à cause de vous.
L'année dernière déjà, pour la même revendication que l'implication de la communauté universitaire dans le processus de désignation des recteurs, le syndicat national des enseignants-chercheurs et des chercheurs du supérieur a cumulé 4 mois d'arrêt de travail.
Le gouvernement refuse de négocier ce point.
Nabala Adré, secrétaire général du SNEX.
Voilà où on se trouve. Ouais, l'État s'en fout, puisqu'il pense qu'il est une puissance que rien ne peut faire bouger. Il a le monopole de la puissance. Il s'est inscrit dans la logique du règlement de n'importe qui par la force. C'est de cela qu'il s'agit. Donc l'État nous lance un défi.
En fin de semaine dernière, une rencontre entre les deux parties pour trouver une solution a échoué.
C'est la sixième fois qu'au nom du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur a torpillé les tentatives de négociation. L'État cherche à réduire la crise à son caractère pécuniaire. Il pense que nous grévons pour tout ce qui a trait à l'argent. Non, nous grévons principalement pour réhabiliter l'implication de la communauté universitaire dans le choix des responsables administratifs. Il s'agit fondamentalement de ça.
Dans la recherche de solutions, la structure estudiantine mène aussi des actions de plaidoyer selon Omar Albadé, secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey.
Dès le mardi, nous avons rencontré le SNEX pour les écouter et comprendre quelle est la cause profonde, n'est-ce pas, de cette crise-là, de cette grève-là. Ensuite, nous avons rencontré la CNDH parce qu'elle a eu à contribuer l'année passée pour un peu résoudre le problème. Nous avons ensuite rencontré le médiateur une première fois et même aujourd'hui on a encore rencontré le médiateur. Puis nous avons rencontré aussi l'association des chefs traditionnels. Nous avons déposé des demandes d'audience au niveau de l'association islamique, au niveau de l'archevêque et plein d'autres organismes. Nous avons rencontré même certains anciens ministres. Nous avons déposé aussi une audience auprès du ministre.
À l'expiration de ce mois de grève, le syndicat national des enseignants chercheurs et des chercheurs du supérieur promet de reconduire le mot d'ordre si ces revendications ne sont pas satisfaites. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, tension en Gambie. Plus de 130 personnes ont été interpellées lors d'affrontements entre forces de l'ordre et militants du mouvement Trias Jotna qui demandent que le président Adama Barrow se conforme à sa promesse électorale de quitter le pouvoir après 3 ans. Les autorités ont interdit le mouvement et fermé 2 radios privées. Des organisations de défense des droits humains dénoncent cette situation qui survient 3 ans après le départ de l'ex-président Yahya Jammeh, dont les partisans réclament le retour au pays. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Au Sénégal, aucun cas de coronavirus n'a pour le moment été décelé en Afrique. Mais pour le Sénégal, où les habitants ont de très vagues notions de la maladie, leurs compatriotes bloqués en Chine demandent une assistance aux autorités de Dakar. Notre correspondant Sédina Abagué.
Avec plus de 100 morts en Chine et près de 5000 personnes contaminées, le coronavirus devient un danger de plus en plus présent dans le monde. À Dakar, on en parle peu et les rares citoyens imprégnés demandent un renforcement du contrôle aux frontières. C'est le cas d'Nganjo.
J'ai entendu parler, ils disent que c'est très dangereux, donc moi je ne connais pas la cause, mais je sais que nos autorités devaient prendre des précautions pour mieux garder nos frontières pour que les gens contaminés ne puissent pas entrer. Bon, nous on ne connaît pas la cause, mais si on sent quelque chose d'anormal à notre corps humain, mieux vaut d'aller à l'hôpital. Il faut juste se prendre les dispositions avant que ça entre dans notre pays.
Si les Sénégalais qui sont au Bercail demandent une vigilance maximale, leurs compatriotes présents en Chine sont eux déboussolés. Ousmane Diaye est un commerçant qui fait la navette entre Dakar et les villes chinoises. Il affirme que son commerce est certes plombé, mais pour le moment, le plus important à ses yeux est de venir en aide à ses concitoyens qui sont dans l'épicentre du coronavirus.
À l'instant où je vous parle, il y a 12 ressortissants sénégalais qui résident à Wuhan. La ville est en quarantaine depuis 2 jours. Ils ont lancé des appels aux autorités pour qu'ils leur viennent en aide. Mais on n'a toujours pas eu de réponse venant de leur part ou autre. Donc nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils fassent des efforts pour les Sénégalais qui sont là-bas au moins.
Si les Sénégalais présents en Chine espèrent un rapatriement, les médecins, eux, ne le préconisent pas. Pour le docteur Sidi Tall, cette option est extrêmement risquée dans de pareilles circonstances.
Sachant qu'en cas d'épidémie, il est interdit de faire des déplacements de la zone de l'épidémie vers d'autres territoires avec un risque de dissémination de l'infection. Il est primordial que les cas ou même les gens qui doivent se déplacer soient dépistés au préalable. Question d'éliminer une infection quelconque. Donc, ce qui est primordial dans ces cas, il faudrait déjà que la personne qui a ces symptômes s'isole, qu'il ne soit pas en lieu public. Parce que pour le moment, aucun vaccin n'a été trouvé. tous les symptômes qui ont été décrits, c'est des symptômes qui sont assimilables à des symptômes du syndrome grippal. Donc, faudra qu'on fasse attention parce qu'il y a une dissémination qui commence à s'installer.
Même s'il promet aide et assistance aux Sénégalais bloqués en Chine, l'État veut avant tout éviter l'entrée et la propagation du coronavirus au Sénégal. Pour y arriver, le ministère de la Santé préconise des mesures simples pour éviter la maladie. Il s'agit entre autres de se laver les mains avec du savon, de se couvrir le nez et la bouche pour tousser et au besoin de se protéger avec un masque. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le 75e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination nazis d'Auschwitz est commémoré cette semaine. À cette occasion, le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention des génocides a tiré la sonnette d'alarme sur la montée des discours de haine et du populisme. Abdourahmane Dia a joint à Londres Adama Dieng.
Je rentre comme ça d'Auschwitz. J'ai été très ému en écoutant un survivant de l'Holocauste faire un témoignage très poignant. Il est revenu sur ce lieu de mémoire triste, lieu où plus d'un million de personnes ont été tuées dans d'horribles conditions. Et tenez-vous bien, ce qu'il a dit devait résonner aujourd'hui dans toutes les capitales du monde. Parce qu'il a dit, ne soyez pas indifférents lorsque vous écoutez des mensonges sur l'histoire. Ne soyez pas indifférents lorsque le passé est effacé par des politiciens. Ne soyez pas indifférents lorsque des minorités sont discriminées et que la démocratie s'émiette.
Justement, la circulation des messages de haine est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 75 ans, avec notamment les réseaux sociaux. Qu'au fond, les Nations Unies pour essayer de contrer cela?
Il faut mobiliser la jeunesse, il faut mobiliser les médias, il faut mobiliser les leaders religieux. Ça doit être l'affaire de tout le monde. Nous devons gérer les signes d'alerte précoce, nous devons gérer les facteurs de risque. Et c'est la meilleure forme de prévention. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, même avec les tech companies, que ce soit Facebook, Instagram, nous avons engagé un dialogue pour voir comment les amener aussi à améliorer le monitoring de leur système pour éviter justement la propagation de ces discours de haine.
Il y a également la montée du populisme dans les discours politiques.
Malheureusement, aujourd'hui, et surtout en Europe, il faut le dire, mais aussi aux États-Unis, nous sommes en train de voir une montée de l'antisémitisme. Nous sommes en train de voir un populisme qui se traduit aussi par un phénomène de discrimination, une montée du racisme, de la xénophobie. Et cela est le fait justement d'un leadership qui pense que c'est seulement en essayant de trouver des scapegoats, en fait des prétextes souvent, que ce sont les migrants, les réfugiés. Ce qu'on voit par exemple aujourd'hui dans certains pays d'Europe est effrayant.
Et en Afrique, quelles sont vos préoccupations, sachant qu'il y a beaucoup de foyers de tension?
Il nous faut également jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en Guinée, par exemple, où les manifestations ont été réprimées. Il faut engager un dialogue. Il faut que les autorités de ce pays dialoguent avec sa jeunesse, avec son peuple, pour trouver une solution aux causes profondes qui sont aujourd'hui en train de déboucher malheureusement aussi sur ce qui pourrait être assimilé à une manipulation des populations. Il faut que ça arrête parce qu'il y a un discours ethniciste qu'il faut éviter.
Le conseil spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention des génocides, Adama Dieng.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Arnold Butson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.